Radio Grand Ciel présente B-Jazz, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Claude Cazat. Au micro, Christiane Blanc. Cette année, nous poursuivons notre flânerie musicale à travers les courants et les évolutions du jazz. Vous retrouverez Patrick Durand, un médecin qui pratique le jazz, et Gilles Secase, un journaliste passionné de guitare. Tous deux jouent dans différentes formations de jazz et vous pourrez d'ailleurs les retrouver, entre autres, à Réveillon, dans l'Orne. Gilles Secase, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Patrick Durand, bonjour.
Christiane Blain, bonjour.
Alors aujourd'hui, nous allons évoquer les années 30, l'ère du swing. Nous avons tous dansé le swing, nous étions swing, on dansait, on se balançait, mais peut-être que Gilles Secase, vous pouvez nous dire comment le swing a émergé aux États-Unis, parce que vous dites les années 30, mais on peut être étonné, 1929, c'est la Grande Dépression, alors le jazz.
Précisément, c'est la Grande Dépression et en même temps le moment de la prohibition.
Oui.
Donc les gens ont envie de s'amuser et les gangsters trouvent le moyen dans leur bars malfamés de faire venir de la clientèle qui est à la recherche de l'alcool, évidemment.
Et oui.
Et pour ça, il lui faut de la musique. Donc on engage des musiciens de jazz.
Et, oui.
Et on est à un tournant, parce que le jazz se cherche encore un petit peu. C'est, c'est tout nouveau. Et on va faire de cette musique qu'on a vu émerger dans les années 20, à la fin des années 10 et au début des années 20, on va faire de cette musique une musique de danse.
Oui, parce que c'est complètement différent.
Absolument.
Je dis, on dansait et on s'en souvient de ce swing qu'on aimait.
Absolument. Donc,
même si on l'a dansé beaucoup plus tard.
Et, absolument. En même temps, on a une autre manifestation de la société de l'époque, c'est celle de la radio.
Bien sûr.
La radio prend une place de plus en plus importante. Elle va prendre une place de plus en plus importante au cours des années 30 et 40. Mmh. Et elle permet la multiplication et l'émergence, surtout, des grands orchestres de danse.
Oui, c'est ça.
Les orchestres, les fameux big bands qui se livrent même à des joutes musicales. Mémorable entre les orchestres de Benny Goodman, de Count Basie, de Duke Ellington.
Et vous dites mémorable.
Mémorable parce que c'est enregistré et puis ce sont des batailles tout à fait tranquilles malgré tout, hein, qui se livrent à travers les ondes.
Ah oui.
D'un bout à l'autre du pays. On a un orchestre qui commence à diffuser sur la côte est à 4 heures de l'après-midi et un autre qui suit en face sur la côte ouest 6 heures plus tard ou 5 heures plus tard.
Ah oui, intéressant.
Bien sûr. Et les gens adorent ça.
Bien sûr.
Et puis, parallèlement à ça, il y a les fameux marathons de la danse.
Et oui, c'est ça.
Qui étaient terribles, qui étaient...
À une vitesse.
Ah oui, oui.
Une chorégraphie aussi.
C'était pas simplement de la chorégraphie. Les gens venaient là pour gagner quelque chose, pour gagner une récompense.
Oui, c'est ça.
Et ils allaient jusqu'à en mourir.
Ah
oui, parce qu'on achète bien les chevaux.
On achète les chevaux, absolument. Sûr. C'est tout à fait ça. Et les fameux marathons de la danse qui étaient la possibilité aussi pour les orchestres de jazz de se faire connaître. C'est aussi l'époque où en Europe et en France, plus particulièrement, la seconde partie du...
Démocratise d'ailleurs en plus le jazz.
Aux États-Unis.
Aux États-Unis, oui.
En France, tout doucement, on dit que la France, c'est la seconde patrie du jazz. Et le jazz connaît effectivement en France aussi, mais on en a déjà parlé au cours d'une autre série d'émissions, une popularité sans précédent, et notamment grâce à sa figure de proue à l'époque, qui était le quintet du Hot Club de France.
Oui, on en a d'ailleurs on a déjà évoqué ça.
Absolument. Et alors, une figure très intéressante du jazz... dès 1930, enregistre son premier disque de jazz. C'est Louis Armstrong, le fameux trompettiste.
Louis Armstrong, on a tous dans nos cœurs
Louis Armstrong. Et Louis Armstrong enregistre une chanson qui s'appelle Body and Soul, qui est une chanson qui est interdite à la radio parce que les paroles sont, paraît-il, un petit peu crues.
Ah bon?
Aujourd'hui, on trouverait ça très drôle, mais à l'époque, bon, c'est comme ça. Et donc, nous allons écouter ce fameux Body and Soul de Louis Armstrong, 1930, sur un album qui s'appelait Three's a Crowd, Louis Armstrong.
Days have grown so lonely. I've lost the one and only. My pride has been humbled, for I'm her body and soul. Oh, babe, I was a mere sensation, babe. My house of cards had no foundation, although it has tumbled. I still am her body and soul. What lies before me? The future's stormy, the winter that's gray and old. Unless there's magic, the end will be tragic, and echo the tale that's been told so often. My life revolves about her. What earthly good am I without her? My castle crumble. I'm her body and soul.
Gilles, effectivement, je trouve très intéressant cette version de Body and Soul, qui est un standard incontournable, qui a été chantée par énormément de chanteuses, notamment, et bien sûr par Armstrong aussi. Mais ça me fait penser, cet Armstrong-là, qui est avec beaucoup de monde autour, me fait penser à cette problématique des gros orchestres. On sait qu'en tout cas à l'heure actuelle en France et même en Europe, il est difficile de monter un grand orchestre pour des problèmes tout simplement de salaire et de paiement. Et à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait énormément de gros orchestres, les petits orchestres n'existaient pas plus. Alors, est-ce que c'est un problème de sono? On entend mieux un gros orchestre qu'une petite formation? Est-ce que c'est un problème que beaucoup de gens voulaient s'exprimer? Dans un grand orchestre, on peut avoir plusieurs solistes. Il peut y avoir un sax qui prend un solo, puis après un trompettiste. Voilà la question que je posais pour ces années 30. Mais je crois que tu as une autre idée là-dessus.
Non, c'est tout à fait vrai. Et c'est vrai qu'il faut revenir un petit peu aux origines, les origines du jazz. Avec la Nouvelle-Orléans, où on a l'habitude de jouer en groupe, donc en grande formation. On déambule dans les rues au son des cuivres, au son des tambours et des banjos. On est très nombreux. Donc la question ne se pose pas. Et puis il y a aussi la tradition militaire. Le jazz, ne l'oublions pas, a été enregistré pour la première fois avec des orchestres qui étaient tous des orchestres formés de soldats. Donc on n'hésitait pas sur le nombre d'intervenants, sur le nombre de musiciens. Donc la tradition du grand orchestre est tout à fait légitime. Et puis peut-être aussi qu'on ne joue pas seul dans son coin, le jazz. On a besoin des autres et les petites formations ne sont pas de mise à cette époque-là. On pense plutôt à la grande formation. Le jazz n'est pas une musique de solitaire.
Enfin, beaucoup se sont exprimés tout seuls. On verra dans
plus tard.
Plus tard, voilà, c'est ce que j'ai dit. Absolument. Dans les années qui suivent, effectivement.
Absolument.
Les grands pianistes, les Hartatoum, n'hésitez pas à se produire tout seul. En attendant, nous allons écouter donc une production de 1931, encore un grand orchestre, le Leonard Joyce Orchestra, avec Russ Colombo qui nous joue Just Friend, encore un thème qui est très connu des musiciens actuels et qui est toujours joué actuellement. Donc Just Friends.
Lovers no more, just friends, but not like before. To think of what we've been, and not to kiss again, seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends and one broken heart. We loved and we cried, then suddenly love died. The story ends and we just friends. We two were sweethearts and we said goodbye, one with a handshake and one with a sigh. We two were sweethearts by a sacred vow. What are we now? What are we now? What it is? What it is?
C'était Just Friends avec Russ Colombo, le fameux crooner de l'époque. À l'époque, en 1930, l'enregistrement est de 1932, mais la chanson, elle, a été publiée pour la première fois en 1931. Et Russ Colombo faisait partie de ces gens avec une voix très suave, très chaude, à la Bing Crosby. Et là aussi, on avait des batailles mémorables entre les différents crooners. Russ Colombo tenait le haut du pavé en 1932. Mm-hmm. Bing Crosby était encore au sein de l'orchestre de Paul Whiteman. L'époque des crooners, c'est aussi l'époque des grands standards. On l'a vu avec le premier disque que nous avons écouté, le Body and Soul, Just Friends à l'instant. Et nous allons poursuivre avec un autre standard qui s'appelle Willow Weep For Me. Nous sommes en 1932 et c'est l'orchestre de Ted Fiorito. C'est le premier enregistrement d'ailleurs de cet orchestre avec une partie vocale qui est confiée à Muzzy Marcellino. C'est un morceau qui est dédié à Gershwin, mais pas accepté car pas d'hommage d'un auteur à un autre et parce que il avait été écrit par une femme.
Nous allons écouter, encore dans les standards très connus, un standard que tous les musiciens de jazz aiment beaucoup, pour ma part, qui me rappelle tout à fait l'arrivée d'Art Blakey sur le marché, « It's Only Pepper Moon », donc un standard qui est des années 1933 et qui dont le succès va réémerger lors de cette époque des Jazz Messengers, qui sont les années 55, Gilles.
Début des années 50, oui, absolument.
Ouais, début des années 50. Donc très intéressant de voir cette interprétation historique, à nouveau par un grand orchestre, Gilles.
Tout à fait. Et surtout un morceau qui est écrit par un fameux duo, qui est le duo Harold Arlen et Yip Harburg, qui signeront également... Over the Rainbow, pour le film Le Magicien d'Oz, chanté par Judy Garland. Beau, les paroles de Yip Harburg sont très intéressantes, la musique de Harold Arlen effectivement aussi. Yip Harburg qui a eu maille à partir avec la justice un petit peu plus tard, parce que jugé trop progressiste, mais ça c'était beaucoup plus tard, à l'époque du McCarthyisme. Pourtant, quand on écoute It's Only a Paper Moon, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. C'est même adorable. Ça a été composé pour la comédie musicale The Great Magoo, et utilisé ensuite pour le film Take a Chance. Et ici, c'est l'orchestre de Paul Whiteman, avec au vocal Peggy Healy. L'orchestre de Paul Whiteman, que Christiane aime particulièrement, je crois.
Oui, parce qu'en en fait, il a commandé à George Gershwin la célèbre Rhapsody in Blue, dont il a dirigé la création le 12 février 1924 à l'Ilonian Hall de New York, avec le compositeur au piano. Alors, l'instrumentation de cette œuvre, qui deviendra en fait le thème emblématique, a été réalisé par son pianiste et arrangeur, Ferd Roffé. Et Paul Whiteman crée également le Grand Canyon Suite de Ferd Roffé en 1931, et il a même décidé d'instaurer un prix qui s'appelle le Whiteman Award, qui sera décerné à des œuvres de jazz symphonique. Et en 1930, il est la vedette d'un film musical à grand spectacle King of Jazz. Vous avez vu ce
spectacle? Bien entendu. Paul Whiteman a été considéré, comme Gershwin d'ailleurs, en son temps, comme un musicien de talent, mais pas vraiment un jazzman. Quant à Gershwin, lui, il ne faisait pas de la musique, il faisait de la musique de café-concert, c'est bien connu. Et on considérait qu'il n'était pas un grand compositeur. Mais bon, ceci est une autre
histoire. On l'aime bien quand même.
On les aime bien quand même. Et puis, Paul Whiteman a été un découvreur de talent. On a cité Bing Crosby tout à l'heure, mais on peut en citer d'autres, comme Mildred Bailey, par exemple, la chanteuse Mildred Bailey, qui a eu son heure de gloire dans les années 40 et 50. Un autre champion des grands orchestres, un autre très grand musicien, qui est Duke Ellington, nous signe en 1934 Stompin' at the Savoy. Il a été d'abord enregistré, ce morceau, par l'orchestre de Chick Webb. C'est un morceau qui a été, en fait, popularisé en 1936 par l'orchestre de Benny Goodman. Ici, c'est Chick Webb, le fameux batteur et chef d'orchestre qui a donné sa chance à la grande Ella Fitzgerald. Elle avait 16 ans à l'époque. Tisket et Tasket.
Oui.
Et elle reprendra d'ailleurs à la mort de Chick Webb, assez jeune, elle reprendra l'orchestre à son nom. Chick Webb, qui paraît-il, Christiane ?
Oui, en fait, dès l'âge de 3 ans, il tapait déjà sur toutes sortes d'ustensiles afin de satisfaire son goût du rythme. Donc il était très en avance, mais il est mort assez jeune.
Il est mort assez jeune, c'était un excellent batteur, un excellent chef d'orchestre,
oui,
respecté. Et malheureusement, il n'était pas à la hauteur, si j'ose dire, de ses ambitions, puisqu'il est mort trop tôt.
Près de maturément. Chers auditeurs, vous nous retrouverez le mois prochain pour la suite et la fin des années 30. Et je vous conseille aussi de nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Gilles Secaz, à bientôt.
À bientôt, Christiane Blain.
À bientôt, Patrick Durand.
Christiane Blain, à bientôt.